Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Le mouvement social dans les prisons a commencé le 11 janvier à l'appel de trois syndicats après l'agression de surveillants par un détenu condamné pour terrorisme au centre de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Pas exactement une grève, puisqu'un surveillant pénitentiaire n'a pas le droit de cesser le travail. Ce qu'il peut, c'est organiser des blocages, refuser de commencer le travail à l'heure, et surtout l'action la plus symbolique menée tout au long de ce mouvement, déposer ses clés. Le surveillant refuse ainsi de prendre ses clés et donc n'ouvre aucune porte. Les détenus en subissent les conséquences de plein fouet. Ils n'ont pas de sortie, sont confinés dans leurs cellules et ne peuvent pas se rendre à leurs activités, à l'école pour les mineurs ou dans les formations dont les plus âgés bénéficient. Le blocage touche aussi les parloirs, les extractions de prisonniers dans le cadre de procédures judiciaires, l'entrée des avocats, les cantines, les cuisines, le nettoyage et les douches de détenus. Une véritable prise en otage, ont dénoncé certains. Un détenu à Moulins a même saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour dénoncer des violations des droits de l'homme. Un recours rejeté 2 jours plus tard, car entre-temps, heureux hasard, la cantine et les douches s'étaient remises à fonctionner. D'autres agressions ont renforcé la détermination des protestataires, comme le lundi 15 janvier, celle de 7 surveillants blessés à coups de poing par un détenu dit radicalisé à Mont-de-Marsan dans les Landes. Une population nouvelle, jeune, à laquelle les surveillants ne sont pas habitués, qu'ils maîtrisent et connaissent mal. Pour tenter d'apaiser leur colère, le gouvernement a répondu à certaines de leurs demandes, dont les plus sécuritaires. Il a proposé davantage de postes et un coup de pouce sur les salaires. Alors les prisons ont connu un quasi-retour à la normale, lundi 29 janvier, avec seulement 7 établissements en service dégradé, c'est-à-dire avec des retards de prise de service et un accompagnement au parloir partiellement assuré, comme à Metz, Bordeaux et Vannes. Émilie Chaudet, notre reporter, s'est rendue devant la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en plein blocage. Elle a parlé aux surveillants et aux familles de détenus, comme on l'entend dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, jusqu'à 14h.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Pensez-y, parce que là-haut, ils sont tous en train de vous regarder. Donc, vous avez décidé de rentrer ou pas?
Non!
J'ai rien entendu!
Non!
J'ai rien entendu!
Non!
Faites ici aujourd'hui?
Eh bien, aujourd'hui, je suis en repos. Donc, depuis 6 heures, je suis là. Je resterai le temps qu'il faudra pour soutenir mes collègues qui sont menacés parce qu'ils manifestent pour leurs droits et que personne ne veut nous entendre. Donc, aujourd'hui, on est là.
Vous, ça fait combien de temps que vous êtes surveillante?
Ça fait plus de 10 ans. Moi, une fois, je me suis fait casser 2 dents. Ça a été quelqu'un qui n'a pas eu la cantine qu'il avait commandée. Voilà, ça montait, ça montait, ça montait. Et puis, il n'a pas eu sa cantine. Et puis, à un moment, bah, il a armé le poing et je l'ai pris dans la figure. Voilà. J'avais mon API derrière. L'API s'est déclenchée en tombant. C'est l'alarme qu'on porte sur nous. C'est le seul moyen qu'on ait de se protéger, c'est de taper l'API quand on se sent agressé. Bah, là, je suis tombée sur mon API, ça s'est déclenché, mes collègues sont venus. Il n'empêche que le mal, il était fait. Pourquoi? Pour une question de cantine. Après, voilà, c'est les risques du métier, mais si on peut les éviter, je veux dire, vous iriez vous faire casser la gueule pour 1 400 € par mois? Je ne pense pas. Voilà, ça me rend malade. Et nos familles aussi, ça les rend malades. Moi, mon fils, il y a des fois, il me dit, mais maman, pourquoi tu vas faire ce boulot? Ben, ta mère va faire ce boulot pour te payer tes études, pour pas que tu fasses ce boulot, justement. Et si mes enfants, un jour, sont amenés à passer un concours, je leur garderai bien de leur dire de faire l'administration pénitentiaire. À un moment, il faut, enfin, je veux dire, il faut que les gens comprennent qu'on fait pas ça pour embêter les détenus, qu'on fait pas ça pour embêter les familles. On fait ça pour notre sécurité. Je peux tout à fait comprendre le stress que ça engendre des familles, la colère que ça engendre des détenus, mais à un moment, nous aussi, il faut qu'on défende de notre vie. Un jour, moi je vous le dis, dans pas longtemps, il y en a un qui va y rester sur le carreau. Mais le jour où il va rester sur le carreau, ça va partir très loin. Je crois qu'ils ne prennent pas conscience du danger qu'on est en train d'encourir. Aujourd'hui, vous avez des petits jeunes qui arrivent parce que le chômage étant là, ben, faut bien qu'ils travaillent, ils viennent. Et quand ils voient ce qu'ils gagnent et le boulot qu'on leur demande avec le risque qu'ils prennent, eh ben, ils s'en vont dans d'autres administrations. Parce qu'à un moment, on est là pour remplir le frigo, on est là pour payer des études à nos enfants et encore avec son gagne, c'est pas toujours facile. Je vais attendre que mon fils ait fini ses études et je partirai de l'administration. Ils auront du mal à recruter, à côté de ça, les anciens partiront. Voilà. Parce qu'il ne faut pas croire, les gens ne veulent pas. Aujourd'hui, 70% de ceux qui se sont inscrits pour le concours ne sont pas venus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont allés sur les réseaux sociaux, qu'ils sont allés sur des forums pénitentiaires, qu'on leur a raconté réellement ce qui se passait et réellement ce qu'ils allaient toucher. Donc quand on nous dit qu'on va nous donner 1100 agents de plus par rapport à ce qu'ils ont prévu, faudrait-il que déjà les gens viennent se présenter au concours ? Aujourd'hui, ils vont sur les forums, on leur explique comment c'est, on leur dit ce qu'ils vont réellement gagner. Bizarrement, ils ne viennent pas. C'est peut-être qu'il y a un problème quand même. Si ça continue comme ça, je suis partie. Je suis partie. Je préfère gagner moi, mais rentrer à la maison sans que mes enfants ou mon mari aient du stress pour moi, savoir si je vais revenir dans un seul morceau. Pourtant, il est dans une administration où il porte aussi un uniforme. On en a l'habitude depuis 20 ans, mais ça ne lui empêche pas des fois, quand il entend ce qui se passe dans les prisons, de se dire « Oui, j'ai peur pour toi aussi ». On se soutient mutuellement. Et ça fait 20 ans que ça dure. Mais on a cette chance-là simplement parce qu'il porte du bleu et qu'il sait ce que je vis. Alors imaginez-vous les femmes ou les hommes qui vivent avec des surveillants qui ne savent pas comment ça se passe quand on porte un uniforme. Vous imaginez le stress ? Moi, je ne suis pas étonnée qu'il y ait autant de séparations dans les couples, dans l'administration pénitentiaire. Les gens ne comprennent pas qu'on travaille comme ça. Et à un moment, ça fait éclater la famille. Quand vous n'avez plus votre famille, vous rentrez le soir, vous n'avez pas votre famille pour vous soutenir, vous croyez quoi ? Les gens, ils vrillent, ils tombent en dépression, ils sont en burn-out.
Je suis Thibaut Capel, je suis surveillant pénitentiaire ici à Fougeray-Mérogis. J'attaque ma 10e année. Moi, quand je suis rentré, j'étais un jeune gars paumé. Ce métier-là m'a donné des valeurs. J'ai un mec qui m'a à peu près sauvé ma vie. J'avais juste le bac en poche. Je vivais de tout petits boulots. J'ai fait du black dans les bars. J'ai travaillé aux pompes funèbres. Bon, pareil, un métier que personne ne veut. Et un jour, voilà, on m'a dit, il y a un concours de la pénitentiaire. Tu peux être fonctionnaire, tu auras la sécurité de l'emploi. Et je l'ai passé pour ça, sans trop savoir à quoi m'attendre. Je savais pas du tout shooter les pieds. Alors voilà, vous rentrez dans ce milieu clos où ce qu'on vous apprend à l'école n'est pas forcément vrai. Quand on vous rabâche des cours de droit et que vous voyez que ça vous sert strictement à rien sur la coursive, vis avoir un cadre légal, mais qui va vous allez très vite dépasser par ce cadre-là, parce que une prison, c'est pas un code de procédure pénale. Ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on peut nous apprendre. Et voilà, j'ai découvert ce métier. Je suis parti faire des stages à la maison centrale de Moulins, parce qu'il y a deux établissements dans Moulins. Donc moi, on m'a envoyé chez les profils très durs, des gros bandits. J'avais l'artificier de l'attentat de métro Saint-Michel en 95. Voilà, moi, j'ai fait mes premières coursives parmi ces gens-là. Et j'étais tout seul au milieu de tous ces mecs-là. Au bout de 3 semaines, j'ai pété un câble. J'ai eu ce qu'on appelle un choc carcéral. C'est assez violent en général. Voilà, j'avais passé une bonne matinée bien pourrie. J'avais enchaîné mouvement sur mouvement. Les détenus avaient décidé ce jour-là de se payer un peu ma tête parce que ils pensaient que j'étais pas assez dur, tout simplement. Ils m'appelaient de partout. Moindre petit problème, ils voulaient absolument une réponse. Oui, surveillant, faut que j'aille à l'infirmerie. Oui, surveillant, il faut que je fasse ça. Oui, surveillant, est-ce que vous pouvez faire ça? Ils demandaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je me suis laissé emporter par ce rythme-là. J'ai lâché en plein milieu de ma distribution de repas. J'arrive devant une porte de cellule, j'ai dit non, stop, quoi. Donc là, j'ai fait demi-tour. Là, je suis allé dans mon bureau et puis j'ai craqué. Et c'est ce que mes collègues, de plus en plus, subissent. Alors, certains ont beaucoup de mal à l'avouer. Moi, ça m'est arrivé, je vais pas le cacher, franchement. Il n'y a plus aujourd'hui de honte à avoir, même si mes collègues veulent encore jouer les durs. Moi, j'ai vu des golgothes de 2 mètres craquer tout simplement après une agression. Ils ont des flashs à un moment, quand ils reviennent sur la coursive après une agression. Non, ils n'arrivent plus à avancer, ils sont tétanisés parce qu'ils revoient l'agression et ça part comme ça. Moi, j'ai eu des détenus très calmes qui eux aussi ont subi leur choc carcéral, qui était totalement largué, qui était en train de craquer. Tous les détenus ne sont pas tous des détenus violents. Il y a aussi voilà, des gens qui sont totalement largués. Nous, on doit les protéger d'eux-mêmes, on doit les protéger des autres. Et c'est pour ça que le métier devient dur. Parce que derrière, vous l'assumez, cette charge émotionnelle. Moi, ça m'est déjà arrivé de devoir sauver un détenu à la dernière seconde parce qu'il était en train de se pendre pendant votre appel. Ça vous marque. Moi, j'ai des collègues qui ont beaucoup de mal à s'en remettre. Quand ils arrivent, ils ouvrent la porte de cellule et ils voient le mec qui est au bout d'une corde, qui est en train de mourir. Il n'est pas mort, il est en train de mourir. Vous avez très peu de secondes pour réagir, pour vous mettre vous-même en sécurité, parce que vous ne savez même pas ce qui vous attend, de dire à vos copains que là, il faut venir tout de suite. Donc, vous gueulez un grand coup. Et bah voilà, vous tenez le gars à bout de bras. Et c'est dur à vivre après. J'ai déjà vu le souvenir voilà, d'avoir un mec qui a pété totalement les plombs, qui a sorti une lame de rasoir, et quand le mec il commence à s'entailler les bras devant vous, vous dites waouh, où est-ce que je suis quoi? Où est-ce que je suis? Mais sauf que vous n'avez pas le temps de réagir. Donc vous appelez les gars, alors après on vous dira mais non, t'inquiète pas, c'est rien, il le fait de temps en temps. En général, c'est totalement superficiel, on va juste l'emmener à l'infirmerie, il va pouvoir discuter avec un psychologue, on va recoudre ses plaies, il n'y a pas de souci. Et puis un jour, ouais, vous voyez que le mec, ouais, il y va fort quoi. Donc il faut toujours analyser tout ça, vous avez très 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 peu de temps. C'est ça le métier de surveillant, tout simplement. Donc on rentre chez nous avec ça, il faut qu'on trouve voilà, ce moment-là pour faire sortir tout ça émotionnellement. C'est pas simple, on n'a pas beaucoup de temps en plus parce que on doit souvent revenir au boulot sans avoir eu le temps de se décharger totalement. On ramène ce genre d'image-là chez nous, ça peut pourrir nos vies de famille. Ouais, tout ça c'est compliqué mais on fait avec. Tout ce que je vous ai raconté là, c'est le quotidien. Faut voir après, voilà, en disant ce que ça peut vous laisser comme trace. Donc c'est pour tout ça aussi que ce matin-là, on s'est rassemblés et qu'on a continué notre mouvement, qu'on l'a durci. C'est tout simplement pour demander des vraies conditions de travail, changer tout ça, parce qu'on va pas pouvoir continuer comme ça encore des décennies. Le samedi dernier, moi j'étais sur le dépôt de clés qui s'est organisé à Fleury, donc une action très très symbolique et très forte, parce que tout simplement c'est quoi, les collègues prennent leur service et on va leur tendre leur trousseau de clés, donc leur outil de travail, non, j'en veux pas. C'est ça un dépôt de clés, ça veut dire que derrière il n'y aura aucune porte d'ouverte, donc ils savent à quoi ils s'exposent. Il y a des gens qui ont été révoqués pour ça. On a des détenus qui nous comprennent vraiment. Parce qu'ils ont bien compris que de toute façon, si le surveillant il était bien et disponible, eux, pareil, ils y gagneraient. Ce qu'il leur faut aussi derrière, c'est un interlocuteur. Et nous disent, dites-nous ce qu'il faut faire. Hein. Si on doit nous faire un refus de réintégrer en promenade et dire que voilà, on rentrera pas tant que les surveillants, ils n'auront pas obtenu ce qu'ils veulent. C'est franchement, pour qu'on arrive là, c'est énorme. Et aujourd'hui, bah voilà. On a pris nos responsabilités. Oui, on dérègle les cycles de détention. Ça va toucher aux droits des détenus. Ce matin, les parloirs sont tous partis en retard. On ne sait pas s'ils vont tous pouvoir avoir lieu à cette heure-ci. Les promenades sont toutes parties en retard. Il n'y avait plus d'activité. On en est là. La plupart du temps, les gens qui passent le concours de surveillance, c'est parce que c'est l'un des concours les plus simples à avoir dans la fonction publique. C'est une bouée de sauvetage pour des situations sociales qui sont désastreuses. Je vois des collègues, moi, quand ils arrivent, ils ont des crédits à n'en plus finir, ils viennent de se faire licencier. C'est ça notre vivier de recrutement. Donc, et là, je m'inquiète encore plus quand je vois qu'il y a de moins en moins de personnes qui veulent passer le concours. Ça veut dire que même avec des situations sociales pourries, ils préfèrent aller ailleurs. Donc on a un turnover incessant et on n'arrive pas à garder nos gars. Le salaire en début de carrière, il est à 1400. Après, ça va un petit peu commencer à s'étoffer, mais honnêtement, c'est ridicule. Moi, au bout de 10 ans de carrière, mon salaire, il est de 1600 net. Voilà, on en est là. Quand on va travailler, il y a un vrai risque de mort pour le personnel de surveillance. Donc on arrête de se mettre nous sur notre réserve, on prend des risques, je préfère rester en vie, sans boulot, qu'une pension qui est versée à la famille, mais moi dans une boîte.
J'ai commencé en maison d'arrêt à Ony, maison d'arrêt du Val d'Oise. Ça fait 6 ans et depuis 3 ans, je suis à l'établissement pour mineurs de Porcheville. On s'occupe de mineurs, donc c'est pas non plus le même que les majeurs. Ils n'ont pas le même sens de réflexion, le même rapport face à l'autorité. Et c'est sur la personne qui ouvre la porte qui passe leur nerf. On est face à des jeunes qui sont totalement déconnectés. Pour eux, insulter quelqu'un, c'est une formule de politesse pour se saluer. Donc faire un petit incendie, frapper quelqu'un, c'est un jeu pour lui. Et nous, on est un assaut quotidien. Ce sont les surveillants qui font le travail sécuritaire et le travail éducatif. On a le désavantage d'être en Ile-de-France, ce qui veut dire que toutes les affaires terroristes étant gérées en Ile-de-France, on se retrouve avec des terroristes dans nos murs à devoir gérer en régime commun avec les mineurs en tant collectif. Il y a quelques temps, une collègue qui s'est fait agresser par un mineur dans un chemin de circulation, donc le passage qu'on emprunte avec les mineurs. Donc en fait, on a plein de petits bâtiments et la vue du PCI, donc le poste central d'information, on a vu sur l'ensemble de la détention. On a vraiment un chemin devant nous et donc il n'y a qu'un seul chemin de circulation. Donc le personnel accompagne les mineurs à chaque mouvement, que ce soit pour aller voir le médecin ou aller à l'école. À partir du moment où on prend ce chemin, on est à la vue des autres mineurs également. Donc tous les collègues qui sont dans leur bâtiment voient également ce qui se passe. Il s'est passé qu'un personnel féminin accompagne un mineur, leur accompagne en bâtiment tout simplement. Ce mineur a voulu s'arrêter, parler avec d'autres mineurs, puisque même s'ils sont dans des bâtiments séparés, la communication n'est en rien entraillée. Et il s'est passé ce qui devait passer. Le mineur a agressé violemment la collègue avec des coups de poing, des coups de pied, devant la présence de personnel de la PJJ, des éducateurs, qui ne sont pas intervenus. Et c'est des collègues qui étaient dans le chemin qui sont donc allés directement aider la surveillante. Mettre fin à l'incident, séparer la collègue du détenu. Elle a forcément de multiples contusions, puis elle est surtout choquée, parce qu'on ne vient pas travailler chez les mineurs pour s'en frapper de la sorte. Nos responsables, les cadres, demandent aux surveillants d'agir sur l'insertion et la réinsertion des détenus. Aujourd'hui, nos mineurs ont énormément de temps collectif. Ils sont quasiment très peu en cellule. Et ils bénéficient d'une justice très très souple. Hein. Lorsqu'ils font un crime ou autre, ils ont des peines qui sont vraiment vraiment très très souples. C'est presque dérisoire quand on voit quelqu'un qui a déjà 10 condamnations et que c'est sa première fois en détention. Avant ça, les juges l'auront placé dans divers foyers, dans des internats, etc. Donc finalement, le mineur il est habitué aux procédures judiciaires, avant même d'arriver en prison. Donc pour lui, la prison ne lui fait plus peur. On tombe ensuite sur des gamins qui ont la violence dans le sang maintenant. Quand on voit les jeunes dans les quartiers, les règlements de compte, c'est devenu quotidien. Donc la relation face à l'autorité, il n'aime pas. Pour lui, nous sommes un policier qui voulons l'emmerder dans la rue. Et donc forcément, c'est un clash. Donc les mineurs, ils n'en ont plus rien à faire des personnels. Et dans les cellules, ils ont tout. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ils ont la douche en cellule, heureusement pour eux. Mais ils bénéficient de la télévision. Ils ont des cantines. À part pour certains mineurs qui sont dans des affaires criminelles, c'est-à-dire qu'un meurtre du jour au lendemain et c'est sa première peine, voilà. La plupart des mineurs qui sont là pour du correctionnel ou autre en sont à de nombreux délits. Donc ce sont des jeunes qui, de base, ont déjà un gros dossier pénal derrière eux. Donc les mettre dans un endroit où justement ils ont un cadre favorable pour être tranquille, non, c'est vraiment trop souple. Si on vous met dans une chambre où vous avez tout, avec la télé, un point d'eau, vous êtes avec vos potes, bah, la punition n'a plus lieu d'être. Finalement, la personne va dire « je suis mieux ici que dehors ». Donc il faudrait vraiment des sanctions plus appropriées et plus dures pour que les personnes comprennent vraiment ce qu'est la punition.
Rendre visite à mon fils ce matin, comme toutes les semaines. Il a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes, dans le cadre de la voiture de police brûlée au mois de mai 2016 sur le quai Valmy à Paris.
Vous êtes venu pour quoi aujourd'hui, pour le voir?
Pour lui rendre visite, oui. J'espère que je vais pouvoir rentrer. Vous voyez, j'avais rendez-vous pour 9h20. La série de 8 heures n'est pas passée. Aucune famille n'est rentrée depuis ce matin. Moi, je vais rester au moins toute la matinée. Après, il faut que je reparte à mon travail. Mais j'espère pouvoir rentrer. Je vais rester jusqu'au bout, oui, pour le soutenir à l'intérieur, parce qu'il m'attend. Et puis, j'espère qu'ici, avec les familles, on va pouvoir se parler aussi et ne pas se laisser faire. Parce que depuis la semaine dernière, ils n'ont pas eu tous les jours les repas distribués. Puisque avec les grèves, voilà. La semaine dernière, mon fils m'a dit qu'ils sont restés 4 heures dehors sous la pluie, puisque les surveillants ont refusé de les faire remonter de la promenade. Donc ils n'ont pas accès aux salles d'études, aux activités. Ils n'ont pas accès à leur parloir avocat pour continuer à se défendre. Voilà, c'est tout ça. C'est leur vie quotidienne qui est aggravée dans cette situation-là. Et si jamais ils se rebellent, ils partent directement au mitard. Donc les conditions des prisonniers, c'est pas le Club Med comme on voudrait le faire croire. Ils disent ça sans arrêt, c'est le Club Med. Mais il ne faut pas exagérer. Ils sont dans une cellule de 9 mètres carrés à plusieurs. Ils ont 2 heures de sortie par jour. Ils sont 22 heures sur 24 dans une cellule. C'est pas le Club Med. Les prisonniers, ils sont dans les oubliettes de la République. Et nous, les familles, on est encore plus dans les oubliettes. Personne ne parle de nous, des difficultés qu'on a à venir ici pour rencontrer nos proches. Chaque fois qu'on vient, nous, ici en prison, on a 2 surveillants à la maison des familles, on a 2 surveillants à l'entrée, on a 2 surveillants à la demande de permis. Vous avez des systèmes de contrôle, vous devez ne pas avoir un soutien-gorge avec des armatures parce que sinon vous sonnez et on vous rejette. Vous arrivez une minute en retard, on vous rejette. C'est extrêmement compliqué pour 45 minutes de venir voir des prisonniers. Il y a des surveillants de chaque côté, un parloir c'est une toute petite cabine avec 2 portes et 2 fenêtres. Nous on rentre d'un côté. Donc sur le couloir famille, il y a au moins 4 surveillants qui passent régulièrement. Et puis sur le couloir prisonnier, il y a aussi 4 à 5 surveillants qui passent régulièrement. Si jamais on vous prend à donner de la nourriture ou quoi que ce soit, vous êtes puni, vous êtes privé de parloir. Donc on ne peut pas leur porter de nourriture, on peut leur porter du linge une fois par mois. Notre linge qui est repassé, qui est propre, est contrôlé, slip après slip, chaussette après chaussette. On nous remet tout ça en bouchon dans le sac, c'est pour le donner aux prisonniers. Mon fils, pendant 10 mois l'année dernière, il a été systématiquement fouillé à nu après chacune de mes visites. C'est humiliant. Voilà, c'est ça le traitement des prisonniers. Ils ont du monde pour faire ce genre de fouilles à nu. Voilà, donc on ne les voit pas du tout en sous-effectif. Et je suis outrée de voir ces mouvements de surveillants. Parce que essayer de faire croire à la société que les surveillants n'ont pas les moyens de leurs actions, alors qu'on a des prisons qui sont remplies, qui sont remplies de surveillants aussi, alors qu'on vide les prisons, qu'on mette les gens sous contrainte pénale, et puis effectivement, ils auront un peu moins de travail. Je crois qu'ils sont rentrés, là. On va peut-être pouvoir rentrer, nous aussi.
Vous parlez des surveillants ?
Oui, les surveillants sont rentrés. Donc peut-être qu'on va pouvoir avoir accès au parloir. On va voir.
Thank you. was surfing over sound waves. Scalping tickets to my show for $20 more than face value paid. Heard my vows on you harlequins marveling gaze. I stripped the tarnish off the microphone sharp as a spade. Bring my plans to fruition with intuition on tuitions. The hieroglyphic organized but on the spot with Sam Blasting. Grandiloquence, eloquent, talented like balance beam medalist. The seismic, high fidelity poltergeist in your amplifier. Buzzing from the top like snipers, niggas hyper. Ventilated the sight of the arch nemesis when Festo D walks the premises. I leave a mumma, fired like tootin'. Common with premonitions like Hieronymus device is incisive. And still be rocking the mic with arthritis. Then blow the sleeve up your shirt cause you need a life vest to survive this. Any anonymous character from Bay Area 51 to Copernicus. A turning kiss to concrete or be impaled on a stallic mic. With the slightest impulse I'm hair trigger. Explode and reconstitute with vigor. Put the mic in the depth, crane like the vigilante. Manhandling your crime family like Stan Lee. Brandy niggas with a high roll. Similar adrenaline is hallucinogenic. By the time the ambulance roll up with pharmaceuticals in it, they won't be able to identify it. Dental records on laser disc, CD, tape, or vinyl. The high roll, clippings play the iron curtain. Drop the gavel on your gangster babbling face to vert. Surfing over sound waves, scalping tickets to my show for $20 more than face value paid. Heard my vows on you harlequins marveling gaze. I stripped the tarnish off the microphone sharp as a spade. Bring my plans to fruition with intuition on tuitions. The hieroglyphic organized but on the spot with Sam Blasting. Grandiloquence, eloquent, talented like balance beam medalist. The seismic, high fidelity poltergeist in your amplifier. Buzzing from the top like snipers, niggas hyper. Ventilated the sight of the arch nemesis when Festo D walks the premises. I leave a rumor, fired like tootin'. Common with premonitions like Hieronymus device is incisive. And still be rocking the mic with arthritis. Then blow the sleeve of the shirt cause you need a life vest to survive this.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et le mouvement social des surveillants pénitentiaires, un reportage d'Émilie Chaudet réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Thibault, au syndicat FO pénitentiaire, à Geneviève. Et bien sûr, toujours à Sandrine Chaperon, qui est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et à Céline Autin, qui est notre stagiaire.